Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 précise. Alors je prends la parole quelques secondes, comme ça s'il y a des retardataires, ça leur permet d'arriver tranquillement. Bienvenue pour ce nouveau entre-midi et science de la Galerie Eureka. Aujourd'hui nous allons parler de la construction en terre crue. Alors je parle sous votre couvert, en France le BTP est responsable d'environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est des chiffres pas exacts, vous reviendrez peut-être dessus. En tout cas, à l'heure des transitions, il est donc urgent de réfléchir au développement et à l'utilisation de nouveaux matériaux plus vertueux que le béton et l'acier, pour ne citer que ces deux. La terre crue n'est cependant pas un nouveau matériau. En Savoie, par exemple, et plus particulièrement dans la banlieue savoyarde, les constructions traditionnelles sont empisées. Donc alors, pourquoi remettre ce matériau ancestral au goût du jour alors qu'il a été délaissé? Quelles sont ses qualités environnementales? Répond-il aux normes actuelles en matière de construction? Voilà autant de questions auxquelles vous allez pouvoir nous répondre aujourd'hui. Donc, vous êtes Noémie Prime. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de venir à la Galerie Eureka. Donc, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc, plus précisément au LOCI, donc qui est l'acronyme pour Laboratoire Procédés Énergie Bâtiment. Donc pour ceux qui découvriraient les entre-midi des sciences, donc je vous rappelle simplement le fonctionnement. Nous sommes plutôt sur un café débat un peu hybride, c'est-à-dire que nous allons laisser à Noémie Prime une bonne demi-heure, pour pouvoir nous exposer l'état de la question et surtout la problématique. Et ensuite, le reste du temps, c'est-à-dire la dernière demi-heure, sera consacré justement à l'échange, au débat autour de cette question construire en terre crue. Est-ce une vraie alternative ou une fantaisie? Donc voilà la vraie question. Noémie Prime, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors pour moi, c'est mon premier entre-midi et sciences, puisque je n'ai jamais assisté. Donc je vais essayer de respecter le format qu'on me propose. Et merci de votre invitation aussi pour la Galerie Eureka. Alors, je m'appelle Noémie Prime, je suis de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la construction en terre crue. Alors déjà, quand on dit terre crue, c'est pour ne pas dire terre cuite. Donc, j'ai mis quelques petits échantillons ici que je pourrais vous faire passer pour que vous puissiez bien visualiser la différence de la terre crue et de la terre cuite. Donc là, on parle de terre crue et de terre seule, c'est-à-dire sans ajout, sans adjuvant, sans ciment, sans chaux, juste de la terre. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est effectivement une fantaisie, une vraie alternative pour le futur? Alors si vous êtes venu, c'est peut-être parce que vous avez trouvé que le sujet était original, vous a questionné, vous a demandé ce que c'était. Peut-être que vous avez en tête quelques vertus écologiques de ce matériau de construction. Et donc on va essayer de démêler tout ça pour en savoir un petit peu plus. Alors effectivement, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc j'ai à ce titre deux casquettes. La première casquette, c'est ma casquette de chercheuse au laboratoire LOCI, on vient de vous présenter ici, donc sur la partie de bâtiment, voilà. Et ma deuxième casquette, c'est la casquette d'enseignante, donc à l'école d'ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry, sur laquelle j'interviens également sur la filière bâtiment, donc bâtiment plus précisément, éco-construction, énergie. Mathématiques de recherche, sur laquelle je reviendrai plus précisément un petit peu plus tard, c'est ce que l'on trouve ici au centre, c'est essayer de comprendre mieux le comportement mécanique des structures en terre, c'est-à-dire des éléments tels que les murs, les éléments d'ouvrage, du bâtiment, etc., en lien avec, d'une part, le comportement du matériau granulaire, précisément, le comportement qu'on appelle hygroscopique et capillaire, c'est-à-dire le lien de ce matériau granulaire, ce matériau poreux, son lien avec la phase d'eau, et puis en lien aussi avec l'aspect réglementaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envisager une réglementation autour de ce matériau de construction, puisque actuellement il n'est juste absolument pas réglementé, il n'y a aucune norme ni aucune règle qui s'y applique. Alors, pour essayer de bien comprendre ce que c'est la construction en terre crue, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de bien ouvrir les yeux pour observer le patrimoine. On a beaucoup de chance ici d'être dans une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très densément peuplé de bâtiments en terre crue, et particulièrement chez nous dans l'avant-pays savoyard, lorsqu'on franchit la chaîne de l'Épine, on se rend compte que si on prend le train, ne serait-ce qu'en prenant le train entre Chambéry, Bourgoin-Jallieu, en regardant un peu à gauche, un peu à droite, Toutes les fermes sont tampisées, donc c'est un procédé qu'on a ici, qui est réalisé par couches successives de terre qu'on va mettre entre des panneaux de coffrage, puis qu'on va démouler et continuer sur la passe suivante pour continuer le mur. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, par exemple, sur cette ferme qu'on peut voir à Pont-de-Beauvoisin. Alors, en fait, le matériau et ce procédé de pisé a été utilisé pour tout type d'édifice. Hein. Donc je parle de ferme, on peut parler aussi des églises, on peut parler des châteaux, et puis aussi des maisons. Et puis lorsque, dans les sites urbains, il y a un petit peu de crépi qui s'en va des maisons, quelquefois on se rend compte que, bah oui, finalement, ça n'a pas l'air. Mais il y a aussi toutes les maisons urbaines qui souvent, très souvent, dans cette partie-là, dans ce coin-là, sont construites aussi en pisé. Et quelquefois, même les habitants de ces bâtiments ne savent pas que toute ou partie de leur bâtiment, l'endroit où ils habitent, sont en terre et sont surpris de le découvrir. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un procédé qui a évolué au cours du temps. Ici, cette illustration montre bien que le procédé, la partie la plus vieille, qui est du XVIIe siècle, est différente de la partie du XIXe siècle. Donc, on voit que c'est quelque chose qui a évolué au cours de l'histoire, mais qui reste un procédé assez ancien, avec des bâtiments. Ceux qu'on observe sont des bâtiments qui ont généralement entre 100 et 150 ans. Alors, j'ai parlé de l'avant-pays savoyard, mais on retrouve le pisé aussi jusqu'à Lyon. Alors, on a un état des lieux qui a été fait ici par Étienne Mille, qui a soutenu sa thèse très récemment à Lyon sur un relevé de typologie de tous les bâtiments en pisé dans la ville de Lyon. Donc, il y en a énormément qui ont été détruits, qui n'existent plus, mais il y en a encore énormément qui restent. Et lorsqu'on regarde le type de bâtiment qui reste, on est assez surpris, en fait, parce qu'on découvre qu'il y a des immeubles qui ont été faits en terre. Alors, quelquefois, sont un peu stabilisés. Alors, j'ai mis un exemple ici d'un immeuble, je pense qu'il doit faire 5-6 étages, celui-là, 1, 2, 3, 4, 5 étages, ça c'est le premier. Il a été un petit peu stabilisé avec des résidus industriels de mâche-fer, mais c'est un immeuble qui a 150 ans, où, si on fait un petit zoom, on arrive à distinguer encore les passes de pisé successives, ici. Et puis, ce n'est pas le seul, puisqu'on en a un certain nombre qui existent encore dans le quartier de la Croix-Rousse, dans le 5e arrondissement, etc. Alors, si on élargit un petit peu notre regard et qu'on regarde ce qui se passe en France, donc en France, on sait qu'on a une géographie qui est très diversifiée, on a un climat aussi qui est très diversifié, et pour ces raisons même, on a des sols qu'on trouve en place dans les régions qui sont très différents d'un endroit à l'autre. Et cette diversité de sols a mené, en fait, à une très grande diversité constructive dans les procédés de construction traditionnelle en terre crue. Alors ici, on a une petite cartographie où on voit différents procédés, alors les couleurs sont quand même assez lisibles. Hein. On retrouve cette zone où on a la construction en pisé traditionnellement employée, qui en fait correspond à la zone aux alluvions du Rhône et de la Saône. Hein. On a des graves limoneuses, etc., qui permettent de construire en pisé. On retrouve à un endroit où on a des terres plus argileuses. En Bretagne, on a été obligé, donc on avait moins de graves, on a été obligé de mélanger avec de la paille pour construire ces éléments en terre monolithique. Donc ça, c'est la Bauge. On retrouve un endroit où on a aussi de la terre très argileuse, où on a pu construire des petits éléments, c'est-à-dire des briques en terre crue, qu'on va appeler des adobes, et qui ont été utilisées pour la construction. Par la suite, ont été cuites, et ont mené à toute la culture en briques de terre cuite aussi dans cette région du sud-ouest. Et puis, bien sûr, les zones concernées par le torchis qui sont la Normandie et l'Alsace principalement, avec cette fois-ci un usage de la terre en remplissage d'une ossature porteuse qui était, elle, en bois. Si on élargit encore un petit peu notre regard et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, alors on estime que plus d'un quart de l'humanité habite en fait actuellement dans un habitat en terre crue, donc ce qui est quand même une quantité assez importante. Donc j'ai mis quelques exemples au Maroc, au Mexique, Amérique du Sud, Afrique, Asie, il y a énormément de pays qui sont concernés. J'ai mis un petit peu plus gros un exemple dont on parle beaucoup au sein de... Enfin, qui nous fait beaucoup fantasmer, nous qui travaillons sur la terre crue, c'est l'exemple d'une toute petite ville qui se trouve dans le désert du Yémen, qui s'appelle Shibam, et qui est très intéressante parce que c'est à la fois une ville où il y a des conditions climatiques extrêmes, extrêmement chaudes, extrêmement secs, et où on voit que toute la ville est construite en fait en immeubles de plusieurs étages, 5, 6, 7 étages, uniquement en terre crue, avec des qualités de confort hygrothermique à l'intérieur de la ville qui restent acceptables. Et donc ça, construire des immeubles de 7 étages en terre, en France, bien sûr, on ne le fait pas encore, mais ça se fait. Alors, donc non seulement c'est quelque chose qui est quand même très développé, mais qui est très développé en fait depuis des millénaires. Donc c'est une culture qui est développée à la fois géographiquement et aussi dans le temps. Donc, je dirais, en conclusion de mon introduction, l'observation qu'on peut faire donc à l'échelle de l'humanité, c'est que finalement la construction en terre crue, ce n'est pas une exception. C'était quelque chose qui était normal en France jusqu'au XXe siècle. Et puis c'est encore la norme dans de nombreux pays du monde. Je dirais que ce qui est l'exception, si on réfléchit un petit peu plus, c'est plutôt les procédés constructifs qu'on utilise depuis 70-100 ans. C'est plutôt la construction en parpaing de ciment, finalement. Ça a été utilisé dans toute l'histoire de l'humanité pendant très peu de temps. Et donc, par contre, c'est un procédé constructif qui a été totalement oublié, en réalité. Alors, il a été oublié par qui ? Eh bien, par toutes les parties prenantes du bâtiment. Donc, le premier cercle, on va trouver les gens qui vont acheter les bâtiments, qui vont le payer, qui sont les usagers, le grand public, vous, moi, les pouvoirs publics, qui sont disons, des clients très importants dans le domaine du bâtiment. On dit que les pouvoirs publics ils donnent le là dans le bâtiment parce qu'ils construisent les plus gros projets, etc. Les promoteurs immobiliers également. Dans le deuxième cercle, les deuxièmes qui ont oublié, ce sont les gens qui vont concevoir les bâtiments. Les architectes, les bureaux d'études ne savent plus comment il faut faire, quelle est la résistance, est-ce que je peux l'utiliser en sismique ou pas. Il y a énormément de questions qui sont soulevées alors qu'avant, les choses se faisaient. Dans le troisième cercle, j'ai mis les métiers de la réalisation, c'est-à-dire sur chantier, les entreprises, de grosses œuvres, les maçons, etc., ne connaissent plus le matériau. Et dans le quatrième cercle, j'ai mis le dernier intervenant, mais pas les moindres, c'est les gens qui vont mettre le tampon sur les papiers pour dire « oui, on peut assurer le bâtiment ». Assurer un bâtiment en France, c'est obligatoire, et donc on a besoin de contrôle technique pour que dire à l'assurance « oui, vous pouvez y aller, c'est bon, ça va venir ». Alors, pourquoi est-ce que tout le monde a oublié ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme dans tous les secteurs économiques, on a vécu la révolution, nos grands-parents, les anciens ont vécu la révolution industrielle à partir du 19e siècle. On a eu un développement de brevets sur matériaux de construction. On a eu, du coup, une normalisation du matériau de construction. On a une réglementation, on a une massification de la construction. Et donc, dans tout ça, le métier artisanal de construire n'a pas pu trouver sa place en réalité. Et donc tous les artisans piseurs, en tout cas tous ceux qui n'étaient pas morts pendant les deux guerres, finalement ils ont fini par disparaître de leur belle mort et puis on n'a plus su du tout comment faire. Alors aujourd'hui la question se pose effectivement à nouveau. On a un regain d'intérêt. Alors je dirais aussi pour la part des chercheurs, parce que depuis 20 ans, on sait que c'est les publications scientifiques, en tout cas en recherche sur la terre crue, sont en train d'exploser. Donc on se dit peut-être que ça va être pareil pour la suite dans le secteur du bâtiment. Mais donc on a un regain d'intérêt. Alors pourquoi construire en terre aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce que on serait intéressé, motivé pour construire en terre ? Donc oui, premièrement, il y a effectivement des enjeux écologiques, parce que le bâtiment aujourd'hui, c'est un secteur économique qui est extrêmement polluant. Alors juste le bâtiment, pas le BTP, mais juste la partie bâtiment, est responsable, en gros, à l'échelle mondiale, mais c'est aussi à peu près la même proportion à l'échelle française, de 10% des émissions de CO2 équivalentes. Et donc, dans tout ça, on dit que le ciment, c'est à peu près 7%. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas 7% des 10%, c'est 7% au total de toutes les émissions de CO2. Et on dit que si le ciment était un pays émetteur de dioxyde de carbone, ce serait en fait le troisième pays, juste après l'Inde et la Chine, les États-Unis, pardon, et la Chine. Donc, un très gros pollueur avec de l'ordre de 3 milliards de tonnes de CO2 émis par an. Juste pour le ciment, donc la France, on est à peu près à 600 millions de tonnes par an, pour avoir un petit peu les proportions. Alors pourquoi est-ce que fabriquer du ciment, ça émet du CO2 ? Tout simplement parce que le ciment, c'est le fruit d'une réaction chimique entre l'argile et le calcaire. Il faut qu'on chauffe très fort pour réaliser cette réaction chimique à 1450 degrés. Ça consomme beaucoup d'énergie fossile. Et puis aussi, la réaction de décarbonatation du calcaire émettent elles-mêmes du CO2, donc on a des fortes émissions. On a de l'ordre de 900 kg de CO2 par tonne de ciment produit. Alors la deuxième raison, c'est que le bâtiment est la cause d'une très grande masse de déchets en France. On a à peu près, on estime de l'ordre de 40 millions de tonnes en France, la quantité de déchets pour le bâtiment. Donc ça, ça coûte cher, il faut le régler, il faut le mettre. Enfin, il y a toute une réglementation autour des déchets qui est compliquée, qui est lourde à entretenir. Et c'est vrai qu'il y a aussi le problème de la ressource en réalité, la ressource en sable, etc., qui est un autre sujet. Alors, face à ça, si on regarde le matériau terre crue, bah, le matériau terre crue, bah, il est cru. Donc si je regarde juste le matériau, sans le transport, etc., bah, c'est juste 0% d'émissions de CO2. Et ça, c'est très important, et c'est ce que... Enfin, le fait qu'on ait des faibles émissions de gaz à effet de serre pour les matériaux de construction, c'est ce que vise la nouvelle réglementation environnementale RE2020, qui est mise en œuvre à partir de l'année dernière, 2022, et qui est en train de cadrer, de restreindre progressivement les émissions possibles de gaz à effet de serre sur les matériaux de construction. Donc ça, ça va se durcir encore d'ici 2 ans, et ça va se durcir encore d'ici l'année 2030. Donc c'est quelque chose qui va être très très important et impactant pour la filière. Le deuxième point, c'est que le matériau terre crue, ben, c'est un matériau, c'est juste de la terre, hein, comme je l'ai dit. Donc, en fin de vie d'un bâtiment, on peut reprendre la terre, la remettre à la terre, ou reprendre la terre, refaire un bâtiment, le redéconstruire, le reprendre et le recycler à l'infini. Il y a 2 autres points, moi, qui me semblent d'intérêt également, mais qu'il faut souligner, hein, c'est que c'est un matériau qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, c'est pas un matériau innovant où on a besoin de démontrer quoi que ce soit, etc. On le voit dans le patrimoine. Les bâtiments, ils ont 100, ils ont 150 ans, ils sont capables de durer. On a été capable de le faire. Et c'est aussi des bâtiments, une matière qui va être réparable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réaction chimique. On peut, lorsqu'il y a une fissure, il y a un défaut, on peut reprendre le matériau et le restaurer à l'identique par rapport à l'état initial. Et puis, dernière chose, qui me semble important, c'est que c'est un procédé quand même suffisamment... Enfin, c'est une matière qui est très simple et qui semble quand même, du coup, très résiliente face aux différentes crises de société potentielles. On l'a vu durant les années passées que dans le bâtiment, on a eu quelques petits problèmes, pour ceux qui ont eu des travaux, hein, de rupture de stock, parce qu'on avait des matériaux qui venaient un petit peu loin, des menuiseries, à un moment on ne trouvait plus de fenêtres, à un moment on ne trouvait plus de boulons, enfin, c'est assez compliqué. Ça, on sait que la terre, là-dessus, on ne risque pas d'avoir trop de problèmes. Alors, pour être tout à fait clair et honnête, il faut bien sûr se poser la question suivante. Pourquoi ne pas construire en terre ? Est-ce qu'il y a des arguments contre ? Alors effectivement, il y en a. Et il y a plusieurs freins. Donc le premier frein, et qui est un frein qui est important, qui est un petit peu culturel, hein, c'est que la terre, c'est un matériau naturel. C'est quelque chose qu'on a plus trop l'habitude d'appréhender, le matériau naturel. Il ne sort pas de l'usine, en fait. Il n'a pas son petit tampon sur le sachet, etc. Donc il est variable, c'est sûr. Et du coup, il faut faire confiance à la personne qui réalise. Il faut faire confiance à l'acteur qui va réaliser l'ouvrage. Et ça, comme je dis, on n'a plus l'habitude, c'est un petit peu inquiétant. Et c'est, je dirais, le principal frein. Le deuxième point, c'est que la terre, c'est de la terre crue et de la terre seule, donc elle n'est pas stabilisée. Et on sait qu'à la fin, elle a l'avantage d'être recyclable. Hein. Elle peut retourner à son état initial, etc. Mais ça suppose évidemment que la terre, si on n'en prend pas soin, le structure en terre, s'il y a un dégât des eaux, une remontée capillaire trop importante, etc., on va avoir des petits problèmes de durabilité. Donc ça, il faut savoir faire avec, concevoir avec, et y prendre soin. Ce sont aussi des choses qui font peur lorsqu'on on achète une maison, on a envie que ça tienne longtemps, et on a quelques freins quand même parce que ça coûte très cher. Donc ça, bien sûr, ça impacte aussi, donc ça impacte l'acheteur, hein, ça va impacter aussi l'assureur, et quelquefois les phases d'assurance sont un petit peu plus complexes sur les bâtiments en terre crue. Dernier point, donc j'ai dit que pour la construction en terre crue, on avait besoin d'une main-d'œuvre qui était très qualifiée, qui savait choisir le matériau, qui savait faire avec. Et ça, c'est sûr que la main-d'œuvre qualifiée, c'est ce qui coûte le plus cher, et c'est ce qui va rendre le prix d'un bâtiment en terre crue un petit peu plus élevé qu'un bâtiment conventionnel. Alors j'ai mis entre parenthèses que c'est vrai que par contre, sur les chantiers en terre crue, on ne trouve pas de main-d'œuvre non qualifiée. Et puis on trouve moins aussi, évidemment, de main-d'œuvre que j'appelle fossile, c'est-à-dire moins d'énergie, etc. Et donc, dans notre économie actuelle, du coup, c'est pas trop le bilan, il est un peu défavorable pour la construction en terre crue, mais on pourrait tout à fait imaginer que dans un monde où l'énergie fossile se raréfie, les rapports de force soient inversés. Donc, en définitive, on a des gros freins quand même qui sont psychologiques, culturels, de l'inquiétude, de la peur, qui vient aussi de la méconnaissance. Et puis, ces freins sont liés aussi à un manque de connaissances techniques et un manque de connaissances, peut-être, de cadres réglementaires autour du matériau. Donc, moi, je travaille vraiment sur la partie technique, un petit peu réglementaire, au sujet de ce matériau-là. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, la présentation, il faut que je présente un petit peu plus ce que c'est que ce matériau en question. Qu'est-ce que c'est que la terre, pour pouvoir expliquer un peu les choses. Bah, en fait, la recette de la terre, c'est quelque chose qui est très simple. On a trois ingrédients qui sont tous les trois aussi importants les uns que les autres. Le premier, c'est évidemment les grains. Donc on les voit ici, hein, c'est un petit zoom sur un mur de Pisé. Et puis, le deuxième, c'est l'eau. Et le troisième, c'est l'air. Et les trois sont tout aussi importants. Si j'enlève un des trois, je ne peux pas construire. Alors, on va regarder les grains, tout d'abord. Et puis, on a pu travailler, nous, sur la terre qui a été utilisée sur ce chantier-là, qui est le bâtiment Orangerie, qui est un bâtiment en terre crue qui a été construit en 2019, au courant de l'année 2019, dans le quartier Confluence à Lyon. Un bâtiment qui est assez remarquable, qu'il est possible d'aller voir. Et on a refait l'analyse granulométrique. Et donc, on voit, si on sépare en différentes phases de répartition de ces grains, on voit qu'on a une petite partie d'argile, 8% de la masse, une partie petite aussi de limon, qui sont des grains tout petit peu plus gros que les argiles, et puis une partie importante de sable, 23%, et de graves, qui sont plus gros que 2 mm, qui sont presque 60% de la masse. Il faut essayer de comprendre un petit peu quelle est l'importance de chacune de ces phases granulaires. Et en fait, on a deux grandes parties qui structurent cette phase granulaire. C'est d'une part des gros grains qui vont structurer la matière, qui vont la rendre rigide. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les fines, les grains les plus fins, qui vont coller. C'est cette pâte qui va permettre à ces gros grains d'être solidaires les uns avec les autres. Alors, si on regarde un petit élément de Pisé qui va être coupé en deux, de telle sorte qu'on voit vraiment les grains coupés, qu'on voit bien les choses, on voit bien effectivement cette partie granulaire et cette matrice où on ne distingue pas les grains. Enfin, bon, la photo n'est pas de très bonne qualité non plus, mais on a une matrice qui colle et des grains qui vont tenir le matériau. Vous allez me dire, mais finalement, ces grains fins, comment c'est possible qu'ils forment cette matrice qui est cohérente? Comment ils vont faire pour être suffisamment résistants? Alors, effectivement, tout ça, ça va être le rôle des fluides qui se partagent à l'espace des pores. Donc les fluides qui partagent l'espace des pores, ça va être l'air et l'eau. Donc le pore, ce qu'on appelle le pore, hein, c'est l'espace qui est entre les grains et qui est occupé à la fois par de l'air et à la fois par de l'eau. Pourquoi c'est important qu'il y ait ces deux fluides? Et bien, tout simplement parce qu'il y a physiquement un rôle très important de cette interface-là qui se comporte en fait comme une membrane en tension. Et cette tension, qu'on appelle la tension interfaciale, et qu'on nomme sigma, donc c'est une contrainte, elle dépend presque uniquement de la nature des fluides, donc là, c'est une valeur qui va être constante puisqu'on parle d'air et d'eau. On peut écrire une différence de pression qui existe entre la phase d'air et la phase d'eau, puisque c'est un autre paramètre qui va être très important, et on va appeler cette différence de pression la pression capillaire. Qu'est-ce que c'est que la pression capillaire? Ça va être la différence de pression entre l'air et l'eau, et c'est une valeur qui va être positive, tout simplement parce que la pression de l'eau, elle est un petit peu plus petite que la pression de l'air lorsque le matériau poreux n'est pas saturé. Une pression d'eau qui est négative, en tout cas qui est plus petite que la pression d'air, ça s'appelle une dépression qui va être présente. Cette pression capillaire, en fait, elle est fonction de deux choses, ça c'est la loi de Laplace. Elle est fonction d'une part de la qualité de cette interface, donc la tension interfaciale sigma, qui est une constante, et elle va dépendre d'un autre paramètre qui est le rayon de courbure du ménisque. Le ménisque, c'est la petite partie arrondie qu'on observe entre deux grains, donc la petite goutte d'eau dont la surface va être arrondie. Et le rayon de courbure, ça va être le rayon du cercle qui va pouvoir avoir la même courbure que ce ménisque-là. Donc là, on le voit ici, le rayon de courbure. Et ce qu'on peut dire à partir de cette expression, c'est deux choses. Bon, la première, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'eau, elle est en dépression par rapport à l'air. Donc on parle aussi de succion. Et c'est donc une contrainte qui va forcer les grains à se rapprocher les uns les autres, qui va les tenir ensemble. Les deuxièmes points, c'est que cette pression capillaire, eh ben, en fait, elle va être variable. Elle ne va être pas variable avec sigma, qui ne dépend pas ici pour l'air et pour l'eau, mais elle va être variable selon le rayon de courbure. Ce rayon de courbure, il sera d'autant plus petit que les grains seront fins, et d'autant plus petit que les ménisques vont rentrer progressivement à l'intérieur du contact entre les grains. C'est-à-dire que la pression capillaire deviendra plus forte lorsque les grains seront petits et lorsque le système sera en train de sécher. Donc la phase de séchage est quelque chose qui est très important pour permettre à notre matériau d'être bien résistant. Effectivement, lorsqu'on fait, on prépare un chantier, lorsqu'on réalise un chantier en pisé, on est obligé de mettre de l'eau avec notre matériau sol pour pouvoir bien mélanger, pour avoir une bonne compaction. Et ensuite, lorsqu'on va remplir la branche, on va compacter. Ensuite, on déplace notre système de coffrage et puis on va laisser la partie réalisée à sécher. Et c'est quelque chose qui va être très important pour la montée en résistance. Alors ça, on peut le voir sur le chantier. Ici, si on regarde cette petite photo, là où on voit la mise en œuvre d'une des piques du bâtiment Confluence en 2019, on voit que la dernière partie qui a été décoffrée est la partie fraîche. On voit qu'elle est encore humide parce qu'elle est plus brune. Mais on voit aussi qu'on a fait attention à ce que la partie de l'étage de dessous soit déjà sèche. On voit que la partie de dessous, la terre est déjà sèche, elle est bien plus claire. Donc l'équipe de maçonnerie a attendu quelques semaines, ou en tout cas un temps qui lui semblait intéressant pour que le matériau soit suffisamment résistant en dessous avant de construire le niveau suivant. Qu'est-ce qui se passe en séchage? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le rayon de courbure devient de plus en plus petit. Ici, lorsqu'on regarde un assemblage de grains, on voit que le niveau de l'eau, ici, si on le suit chronologiquement au cours du séchage avec les numéros, on a d'abord quelque chose qui a une courbure très, très grande. La courbure devient plus petite, encore plus petite, et encore plus petite. Et on voit que la pression capillaire augmente et permet de monter en résistance. Alors, donc en définitive, pour construire en terre crue, si je regarde l'effet de l'eau, l'eau est clairement une alliée. Si je ne mets pas d'eau, je ne peux pas construire. Je ne peux pas construire cette pâte-là qui va coller mes grains. Elle va me servir à faire une mise en œuvre, à développer cette tension à l'interface et ces pressions capillaires, et développer les liaisons fortes au sein de la phase argileuse. Mais attention, car l'eau est aussi une ennemie. On a vu que la pression capillaire, elle augmente lorsque l'eau se retire, mais elle va diminuer si l'eau entre à nouveau dans le système. Donc attention pour le bâtiment, si j'ai de trop grandes remontées capillaires, si j'ai un trop grand dégât des eaux, effectivement, la résistance mécanique finit par diminuer et ça peut entraîner des dommages, voire des gros dégâts matériels pour le bâtiment. Donc dans ce cadre-là, moi je recherche spécifiquement sur cette partie-là, et notamment pendant la thèse de Taimi Chitimbo qu'on a encadrée et qui a soutenu en 2023, on aussi. On a mené pas mal de campagnes expérimentales, et notamment celle-ci, qu'on a réalisé pour étudier le séchage et la montée en résistance d'éléments en terre au cours du séchage, pour essayer de répondre à quelques questions, hein, en combien de temps ça sèche, comment ça se passe, est-ce que ça vient tout d'un coup ou pas, etc. Donc on a procédé en trois phases. On voulait étudier des éléments de structure un petit peu gros, donc on s'est intéressé à des pots de lait 45 cm de haut, et puis on allait jusqu'à des murets en 1,50 m. On a considéré une condition hydrique qui était celle on mesurait dans notre halle technique, qui était une condition ambiante, et pendant ce conditionnement, on mesurait les états hydriques au sein du matériau avec diverses méthodes, soit des méthodes globales ou locales. Et puis ensuite, à différents temps de séchage, entre 0 et 32 semaines, on allait tester mécaniquement ces éléments sous diverses sollicitations, et notamment pour connaître la résistance à la compression. Donc on a testé ces échantillons jusqu'à la rupture. On s'est intéressé aussi au comportement élastique, au comportement visqueux. Donc avec quelques illustrations pour comprendre ce que ça donne. Et puis je vais montrer ces demi-murets parce que je trouve que c'est plus rigolo. Donc voici Tiny en train de réaliser son petit muret entre deux panneaux de coffrage. Donc actuellement on a quand même des outils qui sont mécanisés. Là il travaille avec un foulard pneumatique qui permet d'être plus efficace sur la compaction. Une densité sèche qui est bonne, hein. On est de l'ordre de 1900 kg par mètre cube sur le pisé. Le mur qui est ici encore humide, qui est décoffré, dans lequel on pointe les différents endroits où on a pu poser nos capteurs d'humidité relative. Et puis, notre bande de test mécanique sur lequel on a testé le mur à 0, 2, 4, 6 semaines, etc. Le mur, on ne l'a pas testé autant parce qu'on n'avait pas autant de murs. Les petits pots de lait, oui. Le mur, il a été testé sur deux états. Donc là, on le teste à 19 semaines, on le met en place en compression et on charge avec une capacité de chargement qui va jusqu'à 24 tonnes sur le mur. Alors, je vais juste présenter un résultat. pour essayer de se rendre compte que qu'est-ce que ça donne, effectivement, cette augmentation de la résistance de mon mur entre le temps zéro où je viens de fabriquer, j'enlève les manches parce que je peux les enlever tout de suite, ça se tient, hein, et jusqu'au temps où on suppose qu'à peu près c'est équilibré. Alors, on a ces différentes semaines ici que j'ai placées sur l'axe des abscisses, et puis, à un moment donné, j'ai mis la résistance en compression en kilopascal, et puis l'augmentation progressive de cette résistance-là. Alors, ce test-là a été fait sur un élément qui avait un petit peu moins d'argile que les autres, parce que c'était le fond du bac, etc. Donc, je l'écarte un petit peu dans les pointillés que je trace pour montrer l'évolution la résistance. Alors, juste pour donner un petit ordre de grandeur sur ce que veulent dire hein, ces chiffres en kilopascal, tout simplement, à l'état initial, on a 160 kilopascal, ça correspond à peu près, pour le mur, à 2 tonnes. Au bout de 2 tonnes, ce mur est rompu, ne résiste pas. Et après ces charges, au bout de 19 semaines, le mur résiste à peu près à 20 tonnes qu'on lui applique. Donc, ce qui est pas mal, c'est à peu près, c'est bien, c'est quand même de l'ordre de 15 fois moins que du béton armé, donc c'est... Voilà. Quand même un matériau qui est différent. Alors, trois grandes choses hein, qu'on peut regarder par rapport à ces résultats. Le premier qui était intéressant, c'est qu'on voit que le séchage, enfin là on ne le voit pas tout à fait, mais sur les mesures de capteurs, on voit que le séchage c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Et l'augmentation de la résistance, elle n'est pas linéaire non plus. En fait, ces deux phénomènes se suivent exactement, donc on voit vraiment l'effet de l'eau sur la montée en résistance. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, en lien avec ça, les premières semaines sont vraiment primordiales pour la montée en résistance, mais on n'a pas besoin non plus d'attendre jusqu'à pendant un an, deux ans pour avoir une bonne résistance. On peut déjà supposer qu'au bout d'un mois, on a une résistance suffisante. Et puis on voit que la résistance effectivement de l'état initial, elle est à peu près 10 fois moindre que la résistance finale. Et ça, c'est des données qui pourront être utilisées pour essayer de faire mieux comprendre un organisme de contrôle, comment ça fonctionne à un faiseur, un bureau d'études, etc., à quel moment on va pouvoir phaser notre chantier pour pouvoir avancer et être assez sécuritaire. Alors, j'en viens du coup à la première question que j'avais posée au début de cette présentation. Alors, est-ce que la construction en terre est une fantaisie ? Alors, bon, chacun aura son avis là-dessus. Cependant, ce qu'on voit, c'est que la construction en terre, c'est quelque chose qu'on connaît, qui a été expérimenté et qu'on a su faire avec des moyens humains non mécanisés, et que probablement c'est pas totalement déconnant d'essayer de le faire avec des moyens maintenant plus modernes. On pourrait peut-être arriver à faire quelque chose. La deuxième question, c'était est-ce que c'est une vraie alternative ? Donc oui, il y a vraiment des qualités pour ce matériau qui sont intéressantes, des qualités notamment écologiques, et des qualités qui vont pouvoir répondre aux nouvelles réglementations environnementales qui sont quand même... qui impacte beaucoup la filière du bâtiment. Maintenant, est-ce que ce sera... Donc c'est une des voies de réponse, hein, bien sûr, il n'y a pas que la construction en terre, hein, bon, il y a du biosourcé dans des constructions qui sont bas carbone, il y a plein de choses. Est-ce que cette voie sera massifiée, par contre, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura les moyens de développer une vraie filière ? C'est quand même des constructions qui sont en train de se développer actuellement, avec beaucoup de chantiers, beaucoup de questions aussi des praticiens de la terre et des bureaux d'études, des architectes là-dessus. Et puis... En conclusion, je remettrai un petit peu cette carte de France, parce que j'ai parlé beaucoup de patrimoine et pas de construction neuve, où on voit qu'il y a des choses qui émergent, et ce qui est intéressant, c'est que les pratiques constructives par région sont quand même respectées, c'est-à-dire qu'on reste globalement à faire du puiser dans la région Rhône-Alpes, parce que la terre s'y prête bien. On reste à faire de la Bauge dans la Bretagne, on reste à faire des briques beaucoup aussi dans le sud-ouest, parce que on a la terre qu'il faut, on a un petit peu plus de culture, et du torchis dans l'est de la France. Un petit zoom particulier sur ce bâtiment-là, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été assez médiatisé, qui est un groupe scolaire à Villefranche qui a été inauguré le 4 septembre dernier par les enfants de la ville, et qui est le plus grand bâtiment en pisé construit par... Enfin, le plus grand bâtiment public construit en pisé. Il fait de l'ordre de 2000 m² en zone sismique. Voilà, moi j'ai terminé pour la présentation. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, vous êtes complètement dans les temps, donc merci beaucoup pour cette première présentation. Vous connaissez le principe du café débat. Voilà, je donne la parole, c'est un peu le bâton de témoin, le micro, donc voilà, ça permet de distribuer la parole. Vous vouliez commencer?
Oui, sur certains bâtiments, donc on met maintenant des enduits. Est-ce que ça n'altère pas la qualité de la terre du pisé? Et puis, deuxième question, comme les terres sont de plus en plus polluées, quid?
Alors, la deuxième question, qui est la plus simple, les terres sont testées, bien sûr, avant de réaliser... Alors, sauf sur le coup de... Enfin, sur de l'autoconstruction, non, parce qu'il y a aussi pas mal de chantiers en autoconstruction, en fait, dont le nombre est peu quantifié. On estime qu'il y a à peu près un bâtiment sur 10 000 en France qui sort en construction terre crue, hors autoconstruction. Mais sur ce qui répond à un marché, les terres sont testées effectivement pour pas prendre n'importe quoi. Elles sont testées aussi pour vérifier que le comportement mécanique puisse satisfaire la demande, mais aussi sur ce caractère-là. La première question est un petit peu plus importante et complexe, et un point vraiment d'attention sur le bâtiment en terre, c'est que le bâtiment en terre, le matériau terre, a une affinité pour l'eau. Alors, j'ai pas fait passer mes petites briques là, mais je peux vous les faire passer. Donc je fais passer, là on va peut-être le sentir parce qu'elles sont... Voilà. Je fais passer une terre cuite, une terre crue, et je pense que vous pouvez le sentir, c'est que la brique de terre crue, il fait un peu humide là en fait, un petit peu frais, et on sent qu'elle est un peu humide en fait, ça se sent à la main, un tout petit peu par rapport à la brique de terre cuite, vous verrez. En fait c'est un matériau qui a une affinité capillaire avec l'eau, donc ça c'est que s'il y a beaucoup d'eau, l'eau elle va rentrer, mais elle a aussi une affinité hygroscopique, ça veut dire que l'eau va pouvoir se déposer par adsorption autour des grains les plus fins, et elle va pouvoir capter l'humidité de l'air en fait. En gros cette brique là, si je la mets aujourd'hui à l'extérieur, donc sous abri, hein, pas sous la pluie mais à l'extérieur, elle va prendre à peu près 10 centilitres d'eau, juste de s'équilibrer à l'extérieur. 10 centilitres c'est un petit verre d'eau. Et donc, en fait, effectivement, l'eau, elle absorbe et elle relargue constamment l'humidité. Donc, le problème de mettre un enduit qui soit étanche, parce qu'il y a des enduits qui sont quand même perspirants, qui laissent passer l'humidité, un enduit à la chaux, par exemple, mais un enduit de ciment bien étanche, ou une isolation bien étanche, et c'est une très grosse problématique, je ne suis pas rentrée là-dedans sur les isolations, hein. Le problème, c'est que si on a une entrée d'humidité par ailleurs, qu'il soit une remontée capillaire, qu'il soit l'humidité à l'intérieur, et si elle est bloquée parce que l'humidité ne peut pas sortir de l'autre côté... Alors la terre, elle est capable hein, de stocker de l'humidité et de l'eau, etc. Mais le problème, c'est que le bilan, au bout d'un moment donné, il n'est pas équilibré et que l'eau, elle va s'accumuler de plus en plus et qu'à partir d'un moment donné, on voit que la résistance mécanique, elle va se dégrader. Donc on va suivre le chemin inverse sur ma courbe de montée en résistance, hein, c'est qu'on va descendre en résistance. Et donc ça, au bout d'un moment, ça crée bah, des pathologies et voire des...
Oui, bonjour. Concernant Jean Massé... Je voulais savoir qui a pu arbitrer favorablement pour construire en pisé. Il y a dû y avoir quelque part une prise de conscience. Et comment est-elle venue?
Alors, en fait, bon, là, le donneur d'ordre, c'était la ville. Clairement, les pouvoirs publics, enfin, les bâtiments qui sortent actuellement, le principal marché qui sort sur le bâtiment terre crue, c'est le public pour l'instant. Ça sort dans les écoles, ça sort dans les crèches, ça sort dans les bâtiments, parce que voilà, c'est le pouvoir public, il a aussi un petit peu à suivre l'idée de ses électeurs. Hein, donc il y a une grande vague de maires écolos qui sont sortis il y a 4 ans, c'est ça, ouais. Et donc bah, là, ils sont en train de construire en terre crue. Alors des fois, ça se passe pas parce qu'ils n'arrivent pas, parce que trop compliqué, etc. Mais tout le monde l'a en tête. Et c'est là où je dis que les pouvoirs publics sont très importants parce qu'ils impulsent vraiment une dynamique sur les filières de construction, c'est qu'ils sont en train de dégrossir un peu le secteur là. Après, le privé suivra. Mais effectivement, là, c'était une volonté politique. Donc, on a envie que le pisé se voie.
Et la matière première, elle a été recueillie assez proche?
La matière première, elle vient de... Alors, assez proche, ça reste régional, mais c'est pas non plus tout à fait local. Ça vient d'un endroit près de Villefontaine. Donc, c'est une terre qui est assez proche de la terre de confluence. Assez proche en termes de localité de source et de qualité de terre. C'est une terre qui est une terre alluvionnaire, voilà, des qualités qui sont très bonnes pour du pisé.
Oui, quelles sont les équivalences en épaisseur?
Alors, on ne va pas forcément chercher une équivalence mécanique, Parce que souvent, construire en béton ou en parpaing de ciment, c'est pas optimal en fait en termes de résistance mécanique. On estime que pour construire une maison, la résistance dont on a besoin pour construire une maison en R plus 1, R plus 2, ce serait peut-être 0,3, 0,5 MPa. Et le béton, bien souvent, il résiste à 30 MPa. On n'a pas besoin de ça, en fait. Du tout. Le pisé, lui, il est à 1, 2 MPa. On est bien. Donc, on ne va pas chercher... Enfin, ce qui va donner le critère de l'épaisseur, ça ne va pas être la résistance mécanique, ça va être, bah, en fait, quelle épaisseur il faut pour que je puisse faire du pisé. Et bien, l'épaisseur qu'il faut pour faire du pisé, c'est que la personne puisse rentrer dedans pour réaliser son mur. Et donc, c'est au moins 40, voire 50 cm.
Ce qui veut dire que les anciennes réalisations envoyaient des murs de 80 cm à 1 mètre, c'était complètement empirique.
On n'a pas compris, là.
Les murs anciens, oui, sont... Nous, on essaye plutôt d'optimiser actuellement, parce qu'on sait qu'il faut qu'on rajoute une couche d'isolant sur la construction neuve. Et les anciens, ils n'avaient pas ce problème-là, donc ils faisaient un mur en 80. Et ça allait bien. Après, peut-être que celui qui a fait un mur en 80 plutôt que celui qui a fait un mur en 60, c'est parce que le maçon était peut-être un peu plus charpenté et qu'il avait besoin de place. Quelque chose qui est très important et que je n'ai pas précisé sur ces épaisseurs, c'est qu'effectivement, on a besoin pour construire une épaisseur qui soit plus importante. Mais dans des conditions climatiques qui sont les nôtres, qui sont celles qui sont en train de devenir actuellement chez nous dans nos contrées, avec des étés qui sont particulièrement chauds, le confort d'été devient très difficile et cette épaisseur de terre dans un bâtiment amène de l'inertie thermique. Pas tellement de l'isolation thermique, ça il faut rajouter des choses autour, mais amène de l'inertie thermique, c'est-à-dire que la chaleur qui arrive en pleine journée, eh ben, elle va attendre la nuit pour pouvoir arriver à l'intérieur du bâtiment. Et ça c'est quelque chose qui est du confort et qui, ben, sur un bâtiment en béton, hein, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver. C'est pas ce confort-là, on va pas le retrouver. Quoi.
C'était ma question. Isolation thermique et phonique des constructions.
Alors, isolation phonique, je ne peux pas du tout vous dire. Il y a des gens qui travaillent. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions sur l'isolation phonique. Les problématiques, ce serait plutôt celles sur des enduits qui aient des petites fissures et que le son traverse, du coup. Je pense avoir entendu des choses comme ça. Et sur l'isolation thermique, en gros, le pisé, il n'isole pas bien mieux que du béton. Bon. On le met un peu plus épais, donc forcément, ça isole un peu plus, mais pour respecter quand même les nouvelles réglementations, on est quand même obligé de rajouter un isolant.
Moi, je voudrais savoir quels sont les avantages de terre cuite, terre crue, de chacune.
Ouais. Alors, ben, vous les avez vues passer ou pas déjà, les briques? Elles ont chacune l'avantage de leurs défauts, j'ai envie de dire. La terre cuite... Elle est cuite, donc je la mets dans l'eau, je la plonge dans l'eau, je l'immerge, je fais ce que je veux, elle reste la même. Par contre, dès qu'elle se casse, bah, c'est perdu, quoi, c'est un déchet. Là, ces briques, elles viennent d'une même briqueterie, c'est vraiment le même matériau, c'est-à-dire c'est la même terre, et la briqueterie a décidé d'en faire cuire certaines, et certaines de ne pas les faire cuire. Donc on voit vraiment la transformation chimique d'un état à l'autre. Le jour où la cimenterie elle casse une palette de terre cuite, c'est poubelle, et le jour où elle casse une palette de terre crue, elle les reprend, elle les remouille, elle les remet dans la machine, elle refait ses briques. Ça c'est la première chose sur la recyclabilité. Le deuxième point, c'est qu'en termes de résistance, on gagne aussi avec de la terre cuite. Alors est-ce qu'on a besoin d'avoir des énormes résistances? Je ne dis pas forcément, mais ces briques là, alors l'ordre de grandeur de résistance d'une brique de terre cuite, ça doit être de l'ordre de 15-20 MPa. Et cette brique crue, elle est de l'or un petit peu plus, certainement, parce qu'on n'a pas réussi à la casser avec nos capteurs, de 5 MPa, à peu près 4 fois moins. Une brique comme ça, on applique 10 tonnes dessus, on n'a pas réussi à la casser.
Elle a plus d'élasticité, en fait.
L'élasticité, alors ça, on ne l'a pas regardé, c'est vrai. Elle est suffisamment raide, hein, cependant, les deux sont suffisamment raides, je n'ai pas comparé. Mais par contre, elle est très costaud, mais elle est moins que celle-là. Elle est 4 fois moins que celle-là. En résistance à la compression.
Bonjour, comment est-ce que vous respectez les normes antisismiques avec les briques?
Alors, ça c'est une grosse question, parce que la partie sismique c'est la partie vraiment obligatoire, réglementaire. On est ici dans une zone sismique 4. Villefranche, je pense que c'était 3 ou 4, mais il y avait un aspect sismique effectivement. Les concepteurs, alors en autoconstruction, quoi, ils arrivent, ils font des trucs, etc. Sur du bâtiment public, ben, il faut garantir les choses, il faut que le contrôleur technique soit sûr. Et donc là, sur des zones sismiques supérieures à 2, ce qui se fait actuellement sur les gros chantiers comme ça, c'est qu'on ne fait pas reprendre l'effort sismique par la terre, ni par le pisé, ni par l'abri. On va faire du contreventement qui sera assuré par ailleurs par un autre système. Donc on a une construction qui est mixte, soit un œil d'ascenseur en béton, soit à un moment donné un portique en bois sur une partie donnée, etc. Pour pas trop, voilà, pour pas trop en demander, pour que ça passe au niveau réglementaire, etc. Bon, après peut-être qu'un jour on arrivera à valider tout ça, à le faire, ben voilà, à dire quels sont les documents techniques, quelles sont les règles de l'art à respecter pour que ça passe en sismique. Pour l'instant, on n'a pas du tout les outils pour valider la terre en sismique. Du coup, on ne fait pas de la terre en sismique sur du bâtiment. C'est ce que je disais, la survie de Fontaine, l'extension elle est complètement empisée, mais la partie contreventement, donc la reprise des efforts sismiques, ces efforts horizontaux-là, elle est reprise par ailleurs. Je ne sais plus ce que c'était, mais peut-être c'était la cage d'escalier ou un ascenseur qui est un noyau qui était fait en béton armé à l'intérieur. Donc il a deux modes de construction, ce bâtiment-là, en fait.
Concernant les fondations d'un bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas un petit mixage avec, je vais dire, des seuils en béton
Un mixage Ah oui, c'est-à-dire...
Oui, excusez-moi, je me suis peut-être...
J'ai pas bien compris. Si c'était, est-ce qu'on peut tout construire en terre du...
C'est-à-dire, oui. Est-ce qu'on peut associer en seuil pour la construction faire par exemple le ciment, ferraillé, etc. pour consolider, puis après au-dessus, on monte.
Alors la première chose, si on part de la base, hein, c'est que les fondations, du coup, elles sont complètement en béton. Enfin, il y a d'autres pays où on fait des choses un peu différentes, réutilisables ou quoi. Nous, en France, on est complètement sur du béton armé. Si je remonte un petit peu plus, quelque chose que j'ai pas dit. Bon, j'ai dit quand même que c'était sensible à la remontée capillaire, le matériau terre, donc il faut qu'on coupe un petit peu, qu'on éloigne un petit peu la terre de la vraie terre, enfin la terre de construire du vrai sol. Et c'est ce qu'on trouve, hein, à la fois sur la construction moderne que sur le traditionnel, c'est qu'on a toute une partie qui fait de l'ordre de 50-80 cm où on fait une rupture capillaire, soit par un soubassement en béton, un soubassement en pierre, un soubassement en ce qu'on veut, mais on ne veut pas de la terre crue contre le sol. Alors je sais pas, dans le bâti traditionnel, ça fait des choses assez jolies en fait. On parle des bottes. On dit que le bâti en terre, il a des bonnes bottes. Là, on voit aussi, hein, sur Confluence, on a de la pierre de taille. On parle de bonnes bottes et de bons chapeaux. Donc la conception, bah, elle doit respecter les propriétés du matériau. Toute conception doit respecter les propriétés du matériau. Hein. C'est comme chaque objet qu'on utilise a un mode d'emploi, etc. Il y a des limites. Chaque dispositif a ses propres limites. Là, la limite, voilà, c'est vraiment ça. C'est les bonnes bottes ici et le bon chapeau pour bien protéger de la pluie. On peut avoir une pluie sur le côté un petit peu battante, etc. Mais il faut avoir sur le haut du mur, éviter trop d'infiltration, effectivement.
Concernant le montage, j'ai cru voir que c'était. La base, c'était d'utiliser des coffrages. Et puis là, ici, on vient de voir des briques. Alors, ça, les briques que vous nous avez montées.
Ah, oui. Oui, ça c'est des briques, oui, parce que...
Donc ça se monte comme des briques ou c'est...
Ça se monte comme des briques. Ça c'est des briques, ah, oui. Qu'on monte comme des briques.
Donc il y a les deux possibilités.
Donc c'est tous les procédés constructifs qu'on peut trouver. Hein. On a vu... Alors là on ne parlera pas d'adobe, c'est des briques extrudées qui sont un peu plus modernes. Elles ne sont pas moulées à la main, etc. comme la construction traditionnelle. Voilà. Donc dans le sud-ouest, on faisait plutôt de la brique. Et puis nous, en Rhône-Alpes, on faisait plutôt du pisé. Voilà, je trouve que c'était plus pratique de vous amener ça aujourd'hui.
Bonjour. J'étais un peu étonnée de voir le bâtiment à Villefranche qui a un toit plat, tandis que tous les autres bâtiments traditionnels sont touchés avec, justement avec le toit et le large pour protéger le mur.
Oui, oui, oui. Le bâtiment de Confluence ou de Villefranche? Bah, Confluence aussi, il a une toiture plate avec un toit pas très débordant. Bon, après, il n'est pas très exposé ce bâtiment-là en réalité. Je pense qu'ils ont fait un peu leurs études. Alors, si on prend les deux images, est-ce qu'on choisirait ? Ça, c'est après les propositions d'architecte. Quelquefois, voilà. Donc, celui-là, il n'a pas un toit très débordant. C'est une toiture terrasse, effectivement. Bon, il déborde quand même. Hein. Et celui-là, ouais, j'ai peut-être des détails sur le bâtiment. Je ne peux pas vous en dire plus, hein, sur les choix architecturaux, malheureusement, mais j'ai peut-être d'autres photos. Là. Ouais, là, c'est une phase chantier. Donc, on ne voit pas le toit encore. On espère que ça va tenir.
Bonjour, vous vous avez dit qu'il fallait un isolant, en fait, et que le mur devait être respirant quand même. Du coup, quel type d'isolant il faut mettre, et si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur?
Alors, déjà, ce n'est pas totalement obligatoire, parce que le bilan énergétique, c'est plutôt quelque chose qui est global. Hein. Sur le bâtiment de Confluence, par exemple, il n'y a pas d'isolant. Mais avec les apports solaires, etc., ça suffit. Mais souvent, quand même, pour que ça passe ces réglementations, il faut un isolant. Après, il faut respecter le fait que... Alors, il faut respecter le fait que l'humidité puisse s'échapper au mieux possible. Donc, les isolants qu'on va utiliser, c'est certainement pas du polystyrène ou même du liège, même si c'est biosourcé, parce que c'est trop étanche. Donc, on va essayer de mettre quelque chose qui respire. Ça peut être de la laine de roche, de la laine de bois, du biosourcé, mettre de la paille, ce qu'on veut, mais il faut que ça puisse respirer pour que, ben, en cas de problème, on ne sait pas trop d'où l'eau peut arriver dans ce bâtiment. Elle peut venir par le sol, elle pourrait venir par le haut s'il y avait un défaut de toiture. Elle vient beaucoup par l'intérieur parce qu'on a beaucoup d'humidité en fait, à l'intérieur d'un habitat. Alors, il fait un petit peu plus chaud, donc on ne le sent pas, mais tout l'usage des cuisines, des douches, de notre respiration, etc., tout ça, ça charge quand même l'air intérieur en humidité et ça, il faut que ça s'échappe. Donc, j'ai dit un isolant perspirant. Après, intérieur ou intérieur, bah, souvent, ça, c'est des contraintes plutôt techniques. Hein. C'est vrai que c'est pour profiter de l'inertie du mur en confort d'été. C'est plus intéressant d'avoir une isolation à l'extérieur pour avoir vraiment une bonne inertie. Quelquefois, c'est pas possible parce que on a un PLU qui dit qu'il faut que machin, parce qu'on a, on n'a pas la place à l'extérieur, parce que ça coûte trop cher. Donc, on fait comme on peut, mais voilà. Sur la construction neuve. Alors, sur la construction neuve aussi, les pouvoirs publics qui ont payé un petit peu plus cher pour satisfaire leurs électeurs et faire un bâtiment en terre crue, bah, ils ont envie que ça se voit. Du coup, ils vont mettre de l'isolant à l'intérieur, ce qui n'est pas top, mais voilà, ils ont, voilà. Pour l'instant, ils le mettent quand même comme un affichage à leur bâtiment en terre.
Et les dalles dans les étages, elles sont en quoi?
Alors, les dalles dans les étages, en fait, il y a le choix. L'idéal, alors ça dépend ça dépend du nombre d'étages, ça dépend de la contrainte qu'on veut appliquer sur notre bâtiment, ça dépend de l'isolation phonique qu'on va avoir entre deux étages. C'est vrai que si on veut quelque chose qui fonctionne bien, qui soit plutôt dans une optique biosourcée, géosourcée, qui soit pas trop lourd, pour pas trop solliciter le matériau, ni en sismique, ni en charge, on va essayer de mettre plutôt du plancher bois. Donc là, c'est ce qu'on a sur Confluence. On le voit le plancher bois, là, à chaque étage. Après, c'est pas incompatible avec du plancher béton, si on a envie, besoin de mettre du béton pour que, effectivement, l'isolation phonique soit un peu meilleure.
Bonjour, j'aurais deux questions. Tout à l'heure, vous parliez du temps de séchage, où il fallait au moins 4 semaines pour commencer à avoir une stabilité. Est-ce que ça joue sur les durées de construction? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de grave inondation comme on a dans le nord de la France en ce moment?
Donc, première question, effectivement, il faut prendre en compte le séchage quand on construit, pour être sûr de ne pas monter tous nos matériaux en même temps et atteindre la limite de résistance de notre terre, qui est 10 fois plus faible à l'état initial qu'à l'état final. Il n'y a pas de problème quand, en tout cas pour du pisé, je parle. Si le pisé il est fabriqué in situ, il n'y a aucun souci, parce que le temps qu'on fabrique la banche, qu'on fasse le tour, etc., en général, on arrive à la fin du bâtiment et les 4 semaines sont passées. Quelquefois, il y a un petit doute, hein, donc il rajoute plutôt 5 semaines, etc. Il peut y avoir un souci lorsque, dans certains chantiers, on va se baser sur des blocs qui sont préfabriqués. Et si c'était le cas, en fait, c'est des gros blocs qui n'étaient pas fabriqués in situ, parce que bon, là, on voit qu'il y a des arches et tout, faire des coffrages en l'air, arqués, etc. C'était quand même relativement compliqué. Donc, ils ont tout fait à côté du bâtiment. Ils ont construit leurs différents blocs. C'est des gros blocs comme ça. Là, il y a un bloc, deux blocs, trois blocs. Donc, les parties banchées étaient construites une par une et assemblées comme un jeu de Lego. Et donc là, effectivement, ils ont pris soin de commencer par réaliser, donc à côté du chantier, d'abord les blocs du bas, puis les intermédiaires, etc., et d'essayer de bien noter lesquels étaient faits quand, pour être sûr. Donc ça, c'était pour votre première question. J'ai oublié la deuxième.
Les inondations.
Alors, bah, les inondations, bien sûr, on n'en veut absolument pas. Dans les quartiers inondables, on ne va pas construire en pisé, c'est sûr. À Lyon, il y a eu des gros problèmes avec des constructions en terre, hein, sur la partie, le quartier de la Confluence, je pense que c'était au 19e siècle, mais il y a eu toute une partie de la ville qui a été détruite à cause d'inondations. Donc, on n'en veut pas. Alors, c'est bizarre parce que celui-là, il est construit à Confluence d'ailleurs. Mais je pense qu'ils ont dû penser au problème cependant. Je ne sais plus combien on a là. Ça, c'est un bonhomme. Donc, c'est peut-être pas 80 cm qu'ils ont, mais peut-être plus en pierre de taille pour que ce soit plus sécuritaire. Là, ils ont. À mon avis, là, c'est une personne, ils sont plutôt à peut-être 1m60 de hauteur de pierre de taille pour éviter ces soucis.
Il nous reste le temps pour une courte question, plutôt pour une courte réponse.
Oui, compte tenu de l'élasticité potentielle du matériau, est-ce que des chaînages sont possibles ?
Alors l'élasticité, alors je ne vais pas parler de l'élasticité, c'est plutôt la résistance, c'est pas vraiment un problème d'élasticité, c'est plutôt un problème de résistance à ce cisaillement-là sismique. Et oui, en fait, c'est possible de me faire du chaînage. Par contre, les aciers et la terre ne font pas bon ménage, parce que je ne sais plus si c'est un pH acide ou basique qui va être... La terre est plutôt basique et ça va corroder les aciers, je pense que c'est dans ce sens-là plutôt. Et donc ça va pas bien. La dilatation thermique des deux matériaux sont pas les mêmes. Ça abîme, enfin la terre abîme les aciers. Enfin ça fonctionne pas. Donc dans des pays où on fait de la construction traditionnelle en terre crue et où on a des problèmes sismiques, il y a du chaînage en terre, en fibre. Voilà, il y a des choses qui existent. Là chez nous actuellement pas trop. On n'est pas encore là-dedans.
On a beaucoup parlé d'humidité et de la façon de s'en protéger. On n'a pas parlé du problème inverse, qui est la sécheresse. Avec le réchauffement climatique, on enchaîne les épisodes de canicule. Est-ce que ça a un impact justement sur ces constructions ?
En fait, il n'y a aucun problème avec la sécheresse. Plus c'est sec, plus c'est résistant. Donc là, on voit que dans toutes les villes subsahariennes, etc., on va construire en terre, on ne met même pas de toit. Et voilà. C'est plutôt quelque chose qui va être bon et qui va permettre d'avoir une bonne qualité pour le confort des terres.
Il doit nous rester à peu près une minute pour le mot de la fin que je vais vous laisser.
Alors, je suis contente que vous soyez venus nombreux. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à observer sur cette filière de construction en terre, qu'il y a des choses qui se développent et qu'il faut bien garder les yeux bien ouverts, parce qu'à mon avis, il y a des bâtiments qui sortent actuellement, qui vont encore sortir et qui seront intéressants à suivre. Merci beaucoup.
Merci.